Ici, on vous suggère des sorties à vivre cet été dans le Finistère. Et il y aura notamment beaucoup d'expositions, car notre département en accueille de nombreuses et elles sont de qualité. Un exemple avec Domaines et Musées du département du Finistère, qui détient notamment l'abbaye de Daoulas. Elle est connue pour ses expositions ethnologiques. Et cette année, ce sont les sorcières qui sont à l'honneur. Nathan Baer a visité l'exposition pour nous.
On a 45 prêteurs dans l'exposition, donc des comme disait Véronique, dans des institutions nationales comme le Quai Branly, le musée du Louvre, le musée Guimet Paris, les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque nationale de Strasbourg aussi, enfin, notamment tous les ouvrages. Vous allez croiser dans cette exposition des originaux d'ouvrages de démonologie, de parjures de sorts, de toutes ces sortes de choses qui vont aussi être, qui expliquent aussi les nombreux prêteurs qu'on a et le prestige des prêteurs.
Edith Joseph, commissaire d'exposition, et Pierre Tchekhov, doctorant en histoire, nous présente l'exposition « Ma sorcière mal nommée » à l'abbaye de Daoulas.
Donc on a voulu, dans la lignée des expositions de l'abbaye de Daoulas, je vous rappelle que nos expositions, le creuset, c'est l'anthropologie culturelle, les sujets de société. Donc le principe, c'est de poser une question et ne pas revendiquer y répondre, mais en tout cas donner des éléments d'éclairage sur cette question, notamment dans notre rapport à l'ici et à l'ailleurs, aux proches et aux lointains. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'on s'est posé la question de cette histoire de sorcière. La sorcière mal nommée, pourquoi ? Parce que, finalement, on se rend compte très vite que cette sorcière, quand on dit sorcière, c'est souvent celui qui nomme et qui désigne une personne, une femme en l'occurrence, qui ne se désigne pas forcément sous ce nom. C'est le principe du doigt pointé. De là, on est parti aussi sur une exploration qui est aussi bien historique que géographique, puisqu'on a souhaité exploiter ces représentations. Ces représentations, comme vous allez voir dans l'exposition, elles ont des racines anciennes. Bien avant de la sorcière, on a la magicienne antique, la déesse mère, la fée, la chasseresse, la déesse chez les antiques, la sirène aussi, qui peut être une ancienne de sorcière. Et puis on va se rendre compte que son trait de caractère, là où on la représente, son creuset de représentation, ça va être l'obscurité et la nuit et le secret. On arrive ici dans la partie un peu introductive de l'exposition, en tout cas le prologue. On s'interroge sur qui est cette femme et quelle archéologie on peut en faire. Donc c'est juste ce que je vous disais tout au début. Ici, on convoque différentes figures qu'on n'appelle pas sorcières d'ailleurs, parce qu'elles sont ou issues d'autres cultures ou issues de l'Antiquité. Vous avez la figure de la Diane Chasseresse, par exemple, qui est une déesse gréco-romaine. Ce que vous entendez au-dessus de nous, c'est une petite bande son qu'on a mis au point, qui en fait, qui étudie, qui nous propose toute une sémantique sur la sorcière. Le terme sorcière, qu'on dise sorcière, ou qu'on le dise en allemand, ou qu'on le dise en anglais, ou qu'on le dise dans tout un tas de langues, on voit très bien que les racines peuvent être différentes. Mujer salvaje, la mère sauveuse, voilà, on a plusieurs acceptions. Donc autour de vous, voilà, différentes figures antiques et extra-européennes. Vous allez retrouver aussi La sirène qui, je vous rappelle, dans l'Antiquité, c'est pas Ariel la petite sirène, la panique de poisson. Une sirène, dans l'Antiquité, c'est une femme oiseau. Cette femme oiseau aussi qui... on retrouve des caractéristiques de l'inquiétude de cette femme qui finalement est très séduisante, mais a une ambivalence, puisque la finitude de son chant, c'est la mort du marin qui l'aurait imprudemment suivi.
Comme Edith vous l'a peut-être déjà dit, le parcours de l'exposition vraiment se détaille en deux grands volets. Un diptyque qui s'intéresse justement à l'imaginaire de la sorcière, de la sorcellerie, du sabbat, et un autre qui, lui, va plutôt s'intéresser au domaine du réel, en fait, la réalité des procès. Là où vous vous trouvez, on est vraiment dans cette question de l'imaginaire et de la réinterprétation, de l'appropriation des différentes cultures qui composent justement la figure de la sorcière, à la fois dans le domaine des croyances populaires, dans le domaine de la démonologie, les inquisiteurs, le procès, mais aussi dans le domaine de l'érudition, de pratiques magiques avérées, réalisées par des clercs, des humanistes, toute une culture qui va se retrouver justement dans les images. Et cette première salle va vraiment être dédiée à cela, en s'intéressant à ce qu'on appelle le sabbat, le mythe sabbatique, l'idée que nous avons justement un rassemblement d'adeptes du diable qui cherchent justement à conspirer contre l'humanité la nuit dans un lieu secret. Et ça, c'est quelque chose qui va être constitué par un ensemble d'auteurs que vous verrez un peu plus tard, ici, qui sont extraits justement de traités, de livres, qui eux s'intéressent vraiment à la réalité des procès qui vont avoir une valeur documentaires qui vont venir accompagner ces textes, vraiment servir de preuve visuelle de l'argumentaire qui va être développé par les inquisiteurs, tandis que les autres images que vous voyez ici sont plus justement des réappropriations artistiques qui s'imprègnent de cette culture dès le XVIe siècle avec Hans Baldungrin et jusqu'au XIXe siècle dans une représentation très romantique, très fantastique, très influencée par la littérature fantastique aussi, avec par exemple une illustration des Eaux des Ballades, de la Ronde de Sabbat de Victor Hugo.
C'est-à-dire des adeptes du vaudou. Quand la cérémonie arrive à son apogée, les participants en transe exécutent des actes semblables à ceux des yokis indiens comme...
Et puis on va arriver dans un univers qu'on connaît beaucoup mieux puisque c'est l'univers imaginaire des propres représentations qu'on a nous en tant que contemporains de notre époque. Je parle de là, de tout ce qui va être culture populaire. Prend son creuset aussi au XIXe siècle dans le folklorisme, les contes de Grimm, Hansel et Gretel, l'affreuse sorcière, Blanche-Neige, l'affreuse sorcière. Donc les contes et légendes nous nourrissent depuis tout petit, et y compris par les histoires comme les contes de la rue, la sorcière des contes de la rue Mouffetard ou la sorcière Cornebidouille, nous nourrit en fait de ce folklore de la sorcière. On le retrouve aussi dans les grosses productions américaines, le grand écran, le petit écran, les blockbusters, toute la cinématographie, c'est tout l'univers dans lequel on vous propose de vous projeter pour en fait voir à quel point on continue à nourrir et faire évoluer cette représentation de la sorcière.
Tout à l'heure, je vous avais parlé de la question justement d'une culture magique qui relevait de l'érudit, de l'érudition, au-delà de la question des procès de sorcellerie et des croyances populaires. Ce que vous avez devant vous, c'est une expression de cette culture. Ce sont des ouvrages qui reflètent justement l'intérêt d'humanistes, d'hommes savants, pour une pratique magique documentée, avérée, que l'on retrouve dès la période médiévale, avec notamment des hommes du clergé qui étaient extrêmement intéressés par des manières de détourner justement les éléments de la liturgie pour pouvoir justement obtenir un pouvoir qui leur permet d'accomplir des différents prodiges. Ce que nous avons devant nous, là, ce sont des ouvrages un petit peu différents qui vont au-delà justement de cette forme de pratique magique pour s'intéresser plutôt à l'utilisation des propriétés merveilleuses de la nature. L'un des auteurs les plus importants pour la Renaissance, c'est Henri Corneille Agrippa, avec son Liber de Occulta Philosophia, qui va catégoriser la magie en trois grandes catégories. La magie mathématique, la magie naturelle et la magie céleste, la magie astrale. La magie naturelle, qui est aussi étudiée justement par des hommes comme Jean-Baptiste de la Porta, que vous voyez ici, c'est vraiment l'idée de non pas de chercher à conjurer des démons, des anges, des entités merveilleuses pour nous, pour pouvoir accomplir des projets, mais plutôt d'utiliser des plantes, des objets, des pierres aussi, pour pouvoir réaliser justement des exploits qu'on penserait autrement irréalisables.
Ma sorcière mal nommée, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 29 novembre à l'abbaye de Daoulas, dont vous pourrez aussi profiter des jardins très riches et très ombragés.